Je vous propose un petit exercice ce matin. On va continuer dans la participation. Peut-être un peu plus silencieuse. On va lire un texte biblique. Et pendant la lecture, je vais vous inviter à fermer les yeux et à imaginer le décor que vous mettriez derrière le texte qu'on va lire. Un petit peu comme si vous étiez spectateur de cette histoire. Rassurez-vous, ce ne sera pas long et vous n'aurez pas le temps de vous endormir. Je vous invite à fermer les yeux. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors,
« Dis-moi, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. »
Jésus lui répondit,
« L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. »
Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit,
« Je te les donnerai tous, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis, et je peux te donner, et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. »
Jésus lui répondit,
L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul.
Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et il lui dit,
mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, mais Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre.
Jésus lui répondit,
L'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu.
Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Merci. Je vous invite à rouvrir vos yeux. Et nous prenons quelques secondes de silence pour se souvenir, pour se mémorer ce qu'on vient de lire. Jésus vient de se faire baptiser par son cousin, Jean-Baptiste, qui était lui aussi souvent dans le désert. Et c'est l'auteur de l'Évangile selon Luc qui nous raconte l'épisode du désert qu'on vient de lire, cet épisode qui suit celui du baptême. Un épisode un petit peu au goût tentant, qui aurait bien pu achever Jésus et être le dernier de sa courte vie terrestre. Et vous le savez peut-être, les évangiles nous présentent souvent Jésus comme quelqu'un qui aime les fêtes, qui aime les repas, qui aime faire bonne chère, comme on dit. Mais dans le texte qu'on vient de lire, Luc, l'auteur du livre, nous présente un épisode bien différent, antinomique. Un épisode qu'on appelle souvent le jeûne de Jésus ou bien Jésus tenté au désert. Pourquoi est-ce qu'on associe le jeûne et la tentation? Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il été tenté? Comment est-ce qu'il a résisté? Et puis, en quoi ce texte peut-il nous parler à nous aujourd'hui? Beaucoup de questions que ce récit suscite, et je propose qu'on médite simplement ce texte pour voir quels éléments on peut en tirer pour répondre à ces questions et pour voir ce que ce texte peut bien vouloir nous dire à nous lecteurs du XXIe siècle. Alors, on peut se demander pourquoi Jésus est parti au désert. Et je propose d'évoquer deux éléments. Le premier élément, c'est Luc qui nous dit que Jésus est allé au bord du fleuve du Jourdain pour se faire baptiser. Il est ensuite allé dans le désert avant de commencer, on le voit dans les chapitres qui suivent, de commencer son ministère. Mais quel ministère ? Alors oui, pour certains, Jésus est devenu évangéliste itinérant à plein temps, quelqu'un qui parcourait le pays d'Israël pour annoncer l'évangile. C'est pas faux, mais c'est peut-être un peu anachronique. Et c'est pas le ministère premier pour lequel Jésus s'est préparé. Jésus, c'était d'abord un rabbin juif, un rabbin qui s'est préparé pendant toute sa jeunesse pour pouvoir accomplir son ministère d'enseignement de la loi. Et on peut donc comprendre le baptême, le temps au désert et le jeûne comme faisant partie de cette préparation. Deuxième élément de réponse possible, ce sont les 40 jours. Pourquoi est-ce que Luc précise que Jésus est allé 40 jours au désert ? Certainement pas parce que c'était marqué dans son Google Agenda. Certainement pas parce que il était là, il assistait à la scène et il gravait sur une pierre, vous savez, comme en prison, là, dans le Comte de Monte Cristo, on le voit bien, hein, chaque jour, chaque fois que le soleil se couche, on grave une barre. Non ? Non, c'est pas pour ça. Si Luc parle de 40 jours, c'est pour parler d'une durée peut-être de quelques semaines, c'est pour montrer que Jésus est bien le Messie, que Jésus, il s'ancre dans la réalité de l'histoire d'Israël, que Luc, que ses premiers lecteurs connaissaient, dans l'Ancien Testament. Jésus est bien ce nouveau prophète qui, comme Moïse, est passé d'un fleuve, la mer Rouge pour Moïse, le Jourdain pour Jésus, à un désert. Pendant 40 jours pour Jésus, pendant 40 ans pour Moïse. Et entre les deux, on se souvient peut-être du prophète Élie, qui a aussi passé 40 jours dans le désert. Une réalité. Et puis, une fois qu'il était seul dans cet endroit désertique, Luc nous dit de Jésus, qu'il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Je trouve que le style littéraire est un peu abrupt, au point où on pourrait croire que Jésus n'a pas du tout eu faim pendant ces 40 jours, et ce serait un peu peut-être simplé de croire ça. Ce serait oublier que si Jésus est entièrement Dieu, il est aussi entièrement homme. Et je ne sais pas vous, je ne connais pas votre résistance en termes d'appétit, mais moi je ne peux pas tenir plusieurs jours sans manger. C'est impensable et impossible. Et en réalité, très peu d'êtres humains sont capables de tenir plusieurs semaines sans manger. Certains le font, mais leur santé physique et psychique en prend un coup. Ils sont alors souvent sujets aux maladies, aux pertes de conscience, aux hallucinations. Et quelque part, cet état, quelle que soit la religion ou la spiritualité d'ailleurs, il facilite souvent l'expérience du surnaturel. Alors le dialogue entre Jésus et son adversaire, le diable, était-ce une hallucination ou une vision ? Peut-être ben oui, peut-être ben non, comme diraient les Normands. Peut-être les deux à la fois. Mais tout ça pour dire quoi ? Qu'est-ce que ce jeûne du Christ peut bien nous apprendre ? D'abord, que jeûner, ça peut être une bonne chose, mais que c'est pas ce qui nous permet de résister aux tentations. C'est plutôt la parole, Jésus lui-même. On y reviendra. Ensuite, que jeûner, ça peut être une bonne chose, mais que c'est dur. Il faut pouvoir le faire, et on n'est pas égaux en la matière, et c'est important de ne pas l'exiger de quelqu'un qui n'est pas en capacité de le faire, ni de se l'imposer soi-même pour bien paraître. Enfin, Que jeûner, ça peut être une bonne chose, mais que quand on parle de jeûne aujourd'hui, on ne parle pas que de nourriture. On parle aussi de privation volontaire de quelque chose, qu'on veut se priver volontairement, temporairement. Ça peut être une activité, une ressource, un passe-temps. Et ça peut être un bon moyen de réellement se ressourcer, de pouvoir peut-être prendre plus de temps pour être à l'écoute de Dieu, pour s'approcher de lui, ou pour tout simplement passer plus de temps à autre chose, comme prendre soin d'un proche malade, ou comme faire don de l'argent qu'on aurait utilisé à autre chose. Il y a beaucoup d'idées et de façons dont on peut pratiquer le jeûne dans la créativité et la liberté. Vous connaissez pour la plupart ce jeu bien connu sur France 3, vers 18h si je ne m'abuse. Question pour un champion, n'y voyez aucune comparaison entre le fameux Julien Lepers, qui est à la retraite maintenant, mais qui était l'image de ce jeu, et le diable, et entre le meilleur des participants et Jésus. Même si le principe du jeu est un peu le même que ces trois questions que Luc nous présente. Première question, Jésus, t'es Dieu, pourquoi tu changes pas ces pierres en bon sandwich jambon beurre ou en bon kebab ? On pense souvent à casser la croûte, mais dans le désert, on casse plutôt du caillou. Il n'y a pas grand-chose à manger, le diable sait, et c'est sur ce thème qu'il pose sa première question à Jésus en l'interpellant avec l'expression « Fils de Dieu », un titre qui renvoie directement à la divinité du Messie, celui qui devait venir est Dieu. Et le diable le provoque par un thème courant dans l'Ancien Testament, mais Jésus lui répond aussi par l'Ancien Testament. Il vient citer Moïse en disant que l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Puis il faut aller chercher dans le livre du Deutéronome pour voir que dans ce contexte, Moïse va un peu plus loin en disant « Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu ». Je dirais que sur cette question, il semble avoir match nul. Deuxième question. Jésus, tu sais que c'est moi qui règne sur la terre ? Tu veux régner ? Faut juste que tu t'agenouilles devant moi et c'est bon, c'est à toi. Je ne sais pas si vous connaissez la série Game of Thrones, où dans un autre monde, les prétendants au trône de fer se succèdent et se battent sans jamais vraiment y arriver. Et c'est un peu un jeu de chaise musicale. Chacun essaye de faire agenouiller l'autre devant soi, signe de sa soumission totale. Et quelque part, c'est ce que le diable propose à Jésus. Déjà, il lui montre un monde qui n'est pas le sien, puisqu'il s'adresse à son Créateur. Il usurpe le pouvoir. Ensuite, il demande à Jésus, à Dieu lui-même, de se soumettre à lui. Et que répond Jésus ? Tu devrais m'adorer moi, plutôt, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Dieu, c'est moi. Et je dirais que sur cette question, l'avantage est à Jésus. Troisième question, Jésus, tu veux essayer la chute libre ? Tu sais que tu as une assurance angélique qui te garantit la vie, même si tu sautes ? Shakespeare disait « Une chute profonde mène souvent vers le plus grand bonheur. » Est-ce que c'est tentant de sauter ? Est-ce qu'on va toujours vers le plus grand bonheur ? Alors, perso, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, de la chute libre. Vous êtes à 3000 mètres d'altitude et vous sautez, vous êtes porté par les vents. Mais il y a un mais, ô combien important, il y a un parachute. Mais le diable n'en propose pas à Jésus. Et c'est comme si on disait dans l'avion à quelqu'un qui va sauter, on te donne pas de parachute, t'en as pas besoin. Il y a du monde en bas avec un, vous savez, les grands matelas de pompiers là, pour attraper les gens qui sautent de plusieurs étages. Vous sauteriez, vous ? Pas moi. Mais Jésus n'en reste pas là. il n'ignore pas la question, et il répond, là, avec une volonté de mettre fin au jeu. Il répond en affirmant qu'il est Dieu. Il répond en affirmant au diable qu'il est son Dieu, et que c'est lui qui siffle la fin du match. Jésus a gagné incontestablement. Alors, non, Jésus n'était pas un pauvre cow-boy solitaire comme le fameux Lucky Luke, vous savez, à la fin de chaque épisode, la chanson qu'il chante, mais il aimait passer des moments seuls. Et quand on lit un évangile du début à la fin, on repère facilement tous les moments où Jésus aime passer un moment seul, dans un endroit plutôt désertique, du coup. Et qu'y faisait-il ? Il priait, il se ressourçait, il méditait, peut-être qu'il jeûnait aussi. Et notre texte d'aujourd'hui peut refléter l'un de ces moments. Pour Jésus, la solitude était un atout. Et bien sûr, je ne parle pas de la solitude que l'on peut expérimenter parfois dans notre vie. Il y a des gens qui sont vraiment seuls et pour qui la vie est difficile à cause de cette solitude. C'est pas facile d'être seul. Mais la solitude que vit Jésus ici, c'est autre chose. C'est un peu comme un jeûne. C'est un peu comme une privation de la vie sociale pendant quelques heures pour pouvoir recharger les batteries. Et pour nous aussi, parfois un moment seul peut nous permettre de recharger nos batteries émotionnelles, spirituelles, physiques, intellectuelles. Dans nos vies bien remplies, c'est pas toujours simple de trouver et de prendre des moments seuls. Et pourtant, ça peut s'avérer important. Ça peut s'avérer utile. Et justement, Luc, celui qui met en récit ce moment où Jésus est seul au désert, semble insister sur deux leçons particulières qu'il souhaite que les disciples, que les croyants que nous sommes aujourd'hui, apprennent et retiennent. La première leçon, c'est que Luc veut montrer par ce récit que le diable voudra toujours combattre Dieu et lui prendre sa place. C'est un fait, mais le diable n'aura jamais la victoire. C'est en vain qu'il se bat. C'est en vain qu'il essaie de prendre la place de Dieu. Jésus est mort à la croix, et cette mort à la croix était l'événement qui l'a finalement vaincu. Deuxième leçon, Luc veut montrer aux croyants que lutter contre les tentations de la richesse, du pain au lieu des pierres, du pouvoir, d'avoir des royaumes, et de l'idolâtrie, d'adorer quelqu'un ou quelque chose autre que Dieu, est nécessaire, possible et inévitable. Oui, c'est nécessaire de lutter contre les tentations de la richesse, du pouvoir et de l'idolâtrie, parce qu'en tant que chrétien, nous sommes invités à faire le bien autour de nous. On est invités à devenir humbles, généreux, doux. Oui, c'est possible de lutter contre ces tentations, parce qu'en tant que chrétien, on est assuré de la victoire permanente et finale du Christ sur l'adversaire, sur le mal, sur le désespoir, sur la méchanceté qui nous entoure, sur la haine, sur la guerre, sur l'égoïsme, sur l'orgueil. Oui, c'est possible de lutter contre ces tentations parce qu'en tant que chrétiens, nous savons dans quel monde nous vivons et qu'en attendant le retour du Christ, les tentations et les épreuves sont inévitables. D'ailleurs, on n'a pas précisé s'il s'agissait d'épreuves au sens de difficultés de la vie qui nous arrivent ou bien de tentations, plutôt au sens spirituel, au sens d'être tenté de faire le mal. Eh bien, si je ne l'ai pas précisé, c'est que Luc, l'auteur, est volontairement ambigu. D'abord, parce qu'en grec, c'est le même mot. Et qu'ensuite, on pourrait dire que les questions du diable sont des tentations de pouvoir, de richesse, d'idolâtrie, et que le jeûne difficile de Jésus dans le désert était une épreuve. Et donc c'est intéressant de garder à l'esprit ces deux sens, sans exclure l'un ou l'autre. Alors, dans certaines traditions chrétiennes, lors d'une bénédiction de mariage, vous le savez certainement, quand l'officiant leur demande aux mariés s'ils consentent à se marier avec l'autre, les mariés doivent répondre à leur conjoint en disant « Oui, avec l'aide de Dieu ». Et c'est un peu ce que nous propose l'auteur du récit, en parlant du Saint-Esprit au début et à la fin de l'épisode. Luc veut montrer au lecteur qu'il n'est pas seul. Oui, c'est vrai, les épreuves et les tentations de la vie sont inévitables. Mais ici, Luc nous encourage. Luc nous encourage à répondre à l'appel de Dieu, à le suivre et à vivre ces épreuves et ces tentations inévitables en répondant « Oui, avec l'aide de Dieu, l'Esprit Saint ». Nous ne sommes donc pas seuls. Et il n'y a pas de situation trop désespérée pour Dieu. Il n'y a pas de situation où on devrait rester seul et fataliste. Dieu est toujours là, au milieu des épreuves comme au milieu des réussites. Dieu est toujours là, prêt à relever le faible. Il reste au cœur de notre louange. Un médecin du XXe siècle disait au sujet de l'épreuve « Confronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de trois choix. Combattre, ne rien faire ou fuir. » Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que nous avons tous fait ces trois choix un jour ou l'autre. Nous avons tous combattu, nous avons essayé, nous avons tous laissé faire. C'est arrivé, et nous avons tous fui une épreuve ou une tentation, si nous sommes honnêtes. Et Jésus ? Eh bien, Jésus, lui, il a combattu. Parfois, il n'a rien fait, c'est arrivé lors de son procès, à la veille de sa mort, mais il n'a jamais fui. Et c'est son amour, c'est ça, c'est son amour qui nous accueille par sa grâce, toujours, qu'importe si nous avons fui un jour ou l'autre, si nous avons plus fui que combattu dans notre vie, le Christ nous ouvrira toujours ses portes, toujours prêt à nous aider. Et quelque part, cette histoire de Jésus au désert que Luc nous conte si bien, s'il fallait retenir une chose, c'est que nous serons toujours entre le jeûne et les tentations, mais toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Amen.